J'aimerais encore vous parler sur le sujet de la souffrance. Je ne vais pas traiter tout le sujet dans son ensemble, c'est trop vaste, et puis j'ai l'occasion d'en parler à d'autres moments. Mais la semaine dernière, nous avions vu qu'une des raisons pour lesquelles on souffre, c'est que nous avons le péché qui est devant nous, en permanence. Hein, on voit, il y a des versets, je ne vais pas refaire le message, je vous encourage à l'écouter si vous n'étiez pas là, mais on voit que une des raisons pour lesquelles on souffre, c'est notre péché, et que ça soit le péché intérieur, le mal-être qu'il peut y avoir parfois. Et je me disais, si on pouvait transformer la souffrance en énergie, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chose? Et parce que le monde souffre. Enfin voilà, il y a des degrés de souffrance différents, mais je ne sais pas pour vous, mais on peut parler en journée ou en semaine, mais combien de fois nous avons des émotions ou des pensées qui nous font souffrir? Combien de fois nous faisons des actes même qui nous font souffrir? Nous prenons des décisions qui nous font souffrir? Parfois ce sont les autres qui nous font souffrir. Des fois il ne se passe rien de particulier, mais on souffre quand même. On ne va pas bien, alors on peut y mettre tous les termes que l'on veut. Mais il y a quand même dans l'existence une forme de frustration qui est liée au péché, qui est liée à la déconnexion que nous avons eue en Éden avec Dieu. Et on a besoin d'être sauvé, ça c'est la première chose, sauvé de la condamnation liée à notre péché, mais aussi, et ça c'est le processus de sanctification, jusqu'à ce que nous arrivions à terme, lorsqu'on sera au ciel, on a besoin d'être sauvé aussi de certaines pensées, de certaines façons d'agir, de certaines façons de parler, de certaines façons de réagir, de certaines façons de voir la vie aussi. Parce que en fonction de où nous voyons la vie, on peut aller dans un chemin qui peut nous perdre. Et on a besoin d'être sauvé de tout ça parce que sinon on va rajouter à la souffrance. Il y a de la souffrance qui, je pense à la souffrance physique par exemple, elle est liée à notre péché aussi. Hein. C'est parce que nous avons désobéi à Dieu que la mort est entrée dans le monde. Donc cette souffrance-là n'est pas liée à ce que forcément j'ai fait aujourd'hui, mais est liée à l'héritage que j'ai reçu, c'est-à-dire que mon corps dépérit, je vais mourir un jour. Et puis, entre-temps, si je me donne un coup de marteau sur le doigt, je souffre. Si je suis malade, je souffre. Donc il y a cette souffrance. Et je parle de la souffrance physique parce que elle peut, pas toujours, mais on peut dire qu'elle est déconnectée de l'âme. C'est quelque chose qui est physique. Voilà, je souffre. Mais il y a cette souffrance-là dans la vie. Et puis, il y a l'âme où, à part dans l'âme en général, sans qu'il y ait besoin de souffrance physique, il y a la souffrance de l'âme. Et on a besoin d'être sauvé. Pour ça, il faut être changé, transformé. Alors, nous serons entièrement transformés lorsque nous serons au ciel, heureusement. Mais en attendant, nous avons besoin, et ça s'appelle la sanctification, nous avons besoin d'être transformés à l'image de Christ, d'avoir nos pensées renouvelées, de changer, etc. Donc, on a besoin de traiter parfois, et c'est Dieu qui le fait en réalité, de traiter le péché, pour moins souffrir, pour moins vivre dans la culpabilité, pour moins vivre dans l'isolement, pour pas faire de mal aux autres. Et puis, il y a aussi, on a besoin d'être sauvé de nos réactions vis-à-vis du mal extérieur, parce que même si nous avançons dans la vie chrétienne, et que, pour le dire de façon simple, nous péchons de moins en moins, en admettant, mais les autres peuvent continuer de nous faire du mal. Donc comment je vais réagir à ce mal qui m'affecte, qui m'est imposé, et qui n'est pas lié forcément à moi? En revanche, ma réaction est liée à ma vie, c'est-à-dire comment je vais réagir. Et j'ai besoin d'être transformé aussi vis-à-vis de ces attaques, si vous voulez, de ces attaques extérieures, ces intrusions. Et pour ça, on a besoin d'être transformé. Et alors que, d'ailleurs, je rappelle, pour les étudiants du semestre dernier, c'est une petite parenthèse, on avait reporté la session concernant l'homilétique pour les raisons liées à la Covid-19, et donc on l'a remplacée par deux visios ce semestre. Et donc, mardi soir, il y a une visio pour ceux qui étaient inscrits au cours d'homilétique en printemps 2020. Je ferme la parenthèse. Mais comme j'ai étudié donc le sujet de l'homilétique, et il se trouve que c'est le thème que j'ai enseigné aussi hier pour l'école pastorale, c'est quelle est la différence entre un sermon, une prédication et un enseignement. Parce que vous pouvez aller dans des églises qui ont des très bons enseignements, qui vous donnent peut-être même des informations beaucoup plus importantes et pertinentes que dans d'autres églises. Mais en réalité, vous n'allez pas forcément être nourri spirituellement. En réalité, l'enseignement brut, comme ça, ça touche le côté qui est en nous, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que, alors ce sont des bonnes choses, si c'est la saine doctrine, si c'est des choses tirées des Écritures, si c'est la parole de Dieu, des exégèses en grec et en hébreu faites correctement, le contexte historique respecté, à qui s'adressait l'auteur, et donc on a une vision un petit peu de ce que le Saint-Esprit voulait communiquer à l'époque, et on essaie de le transposer aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent vous donner de très bonnes informations, et ça nourrit, remplit notre âme, mais en réalité, ça augmente la connaissance. Alors c'est une bonne connaissance, c'est mieux que d'entendre n'importe quoi par ailleurs, mais ça ne nous aidera pas à traiter le péché en nous. Ça ne va pas nous transformer. C'est-à-dire que, et d'ailleurs même ça peut être dangereux, parce que je peux me retrouver à être comme un pharisien, à pouvoir dire aux autres ce qu'il faut faire, mais moi ne pas être transformé. Alors que la prédication et le sermon, ça amène les gens à prendre des décisions et à changer de vie. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par la puissance du Saint-Esprit et la manière dont le prédicateur va amener certaines vérités, ça va pousser les gens soit à désobéir, soit à obéir. Mais il y aura un choix qui doit être fait. C'est pas simplement je reçois de la connaissance et je trouve ça très intéressant. Combien de fois, quand j'ai eu des études bibliques, j'en ai fait des centaines, avec des gens croyants, non-croyants, des catholiques. On m'a invité des fois dans des endroits improbables. Et j'ai rencontré des gens qui, à la fin d'études bibliques, disaient « Ah, c'était très intéressant. Je me suis régalé. » C'était intéressant, mais ça les a pas amenés à être transformés. C'est-à-dire que ça n'amène pas les gens à se dire « Voilà, je me retrouve devant Dieu et il y a un péché là en moi. Seigneur, faut que tu m'aides. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. » Parce que cette connaissance-là ne suffira pas à vaincre le péché. Il faut la puissance de Dieu pour vaincre le péché. Il faut une communion avec Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un processus spirituel qui n'affecte pas que l'âme, mais qui affecte l'esprit de l'être humain. Et tant que l'esprit n'est pas touché, il n'y a aucune transformation possible. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là où lorsque certains disciples sont partis, se sont éloignés de Jésus. Pourquoi ils se sont éloignés? Parce qu'ils ont dit « tes paroles sont dures à entendre ». Mais pourquoi elles étaient dures? Parce que ça touchait l'esprit, le plus profond de l'être. Une remise en question totale, c'est-à-dire « je dois mourir à moi-même ». C'est pas simplement « je puise une idée qui est, il me semble intéressante, alors cette théologie-là me plaît, cette église me plaît, cette façon de faire me plaît, et je prends un peu, une salade mixte un peu, je prends ce qui m'intéresse, parce que je suis chrétien ». Alors là, je parle des gens sauvés, là, je parle pas des gens qui sont à l'extérieur de l'église, mais vous pouvez avoir des gens qui ont été régénérés, mais qui après restent sur le sentier du chemin de la connaissance du bien et du mal. Et d'ailleurs, souvent, j'ai été interrogé par certains frères, des dirigeants d'église ou autres, qui nous connaissent pas, alors ils nous demandent, présentez-vous, alors on explique. Et puis, au bout d'un moment, ils disent, mais finalement, qu'est-ce que vous avez de différent de nous? Et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement, par les mots, il n'y a pas de différence. La théologie est peut-être la même. On croit la même chose. Mais je ne peux pas le dire. Mais la seule chose que je pourrais dire éventuellement, c'est venez et voyez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se dire avec des mots, sauf à paraître prétentieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se vit. C'est un peu comme lorsque vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas croyant, il va vous dire « mais oui, le christianisme, je suis d'accord et tout ça, mais quand même, pourquoi tu vas si loin ou qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils peuvent pas comprendre parce que ça s'est passé dans l'être intérieur. Donc, ils peuvent avoir des valeurs chrétiennes, ils peuvent avoir des valeurs morales, mais ils en restent là, la connaissance du bien et du mal. Donc, vous leur apprenez des choses en parlant de votre témoignage, mais eux, ils en restent à l'apprentissage. Ils connaissent des choses. Tiens, je connais quelqu'un, là, il dit qu'il a vécu ça et ça avec Dieu, mais eux ne le vivent pas encore. Il faut qu'à un moment donné, on s'agenouille devant Dieu et on dise même, ben, tout ce que j'ai entendu, même si ça me plaît à la limite, Seigneur, je le mets devant toi parce qu'il faut que toi tu mettes un sceau. Il faut que toi tu valides là. Et ça s'appelle la conversion. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous convainc au-delà des convictions d'un orateur ou d'un ami ou d'un voisin. Et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire que la raison pour laquelle nous souffrons, là je parle en tant que chrétien, c'est que parfois nous avons tendance à nous contenter de connaître. Et alors on apprend plein de choses, on se régale, ah ça je l'ai jamais entendu, ah ça c'était super, ah ça je n'y avais jamais pensé, ah l'illustration elle était super. Bien sûr, on a le droit de s'édifier les uns les autres de cette manière-là, il n'y a aucun souci. Mais faites attention, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on est touché dans notre esprit et on dit « Seigneur, là il y a la vie, il y a quelque chose ». Et ce qui est fou, c'est que ça libère et ça enlève de la souffrance. C'est-à-dire que la vie, vous savez, à cause du péché, on est comme dans un corset. Le corset du péché. C'est, alors, on grossit avec le péché, vous voyez, alors on devient bien gras, alors là, on a des souvenirs, on a des regrets, et puis alors là, il y a un corset, là, il faut paraître. Et on sait très bien que quand on va rentrer chez soi, on va enlever le corset, pff, d'accord? Tout va sortir. Mais Dieu veut faire un travail au-delà de ça. Parce que sinon, c'est du légalisme. C'est une rigidité, c'est un fardeau, et c'est ce corset-là que les pharisiens mettaient. Mais les évangéliques, on peut être comme ça aussi. C'est qu'on est sous un corset, le corset évangélique, et on fait tout ce qui est correct, et ce qui fait que devant les autres, on a peut-être bonne conscience, peut-être même bonne conscience en partie devant Dieu, mais au fond de nous, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je me sens à l'étroit. La Bible me parle d'être libéré. La vérité vous rendra libre. Et on est comme ça, rentre ton ventre, tu sais, cache ton péché. Et Dieu nous a promis autre chose que ça. Il nous a promis de nous donner la vie en abondance. En abondance. Pas un peu de vie. En abondance. Le problème, c'est que, vous savez, sur le sentier qui est le nôtre, Dieu nous attire. Mais comment il nous attire? L'image qui me vient à l'esprit, c'est sur ce sentier, Dieu dépose des miettes de pain. Il est le pain de vie. Il dépose des miettes. Il ne met pas la miche en entier comme ça. Parce que si on a la miche, on s'arrête, on la mange, on en a pour plusieurs jours. D'accord? La manne, vous vous souvenez, elle descendait tous les jours, il fallait pas en garder pour le lendemain. Sauf avant le septième jour. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Dieu va mettre juste ce qu'il faut dans notre vie pour qu'on le suive. Mais il va pas nous... Alors c'est paradoxal, d'un côté ce peu nous rassasie, et en même temps ce peu reste peu, il en faut plus. Et donc ce paradoxe fait que si on est spirituel, on va continuer d'avancer dans la bonne direction sur ce sentier-là. Mais il y a des gens, je peux vous garantir, ils connaissent le Seigneur qui sème, mais ils vont emprunter un autre chemin. Ils vont emprunter, dans les décisions qu'ils prennent, ils vont sur un sentier où ils ont beau avoir entendu que sur ce sentier-là, il y a de quoi manger, ils se réjouissent de ça. Ah, c'est super comme message, c'est super comme promesse. Et ils empruntent ensuite un autre chemin. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, par exemple, ils ont de la haine ou un ressentiment envers quelqu'un et ils vont garder ça. Ils vont pas le remettre à Dieu. Ça, c'est emprunter un mauvais chemin. Mais ils sont capables de vous parler du pardon. Ils sont capables de vous parler de la miséricorde de Dieu. Ils ont la connaissance. Ils peuvent même en parler à d'autres. Ils peuvent même évangéliser. Mais au fond d'eux, il y a un regret, il y a une amertume contre quelqu'un. Des fois, c'est envers soi-même, parce qu'on a pris une mauvaise décision, et la parole de Dieu nous dit qu'on peut se repentir, être entièrement purifié, pardonné, et ensuite le juste tombe sept fois il se relève. Tout ça, ce sont des petites miettes que Dieu met sur notre sentier en disant, voilà, va sur ce chemin-là, le chemin de la repentance, le chemin de la rédemption, le chemin de la restauration, ce chemin-là, parce que je suis mort pour t'offrir ce chemin. Et nous on dit, oh, c'est super, c'est super. Et on va dans l'autre direction. Et on cherche de quoi être nourri, et il n'y a pas. Parce que on croit que la connaissance va nourrir. Non, c'est un peu comme si vous étiez en train d'apprendre un livre de cuisine par cœur, avec toutes les recettes, et vous mangiez jamais. Je ne sais pas dans quel état vous seriez au bout d'un moment. Et vous allez voir le médecin en disant, mais je comprends pas, j'ai tout lu Michel Oliver, j'ai lu Bocuse, j'ai fait des stages, je comprends pas. Et le médecin il dit, mais vous mangez de temps en temps? Ben non, j'ai tout dans la tête. Et la nourriture spirituelle, c'est de faire la volonté du Père. Rappelez-vous ça, Jésus le dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Donc la nourriture c'est pas simplement la parole de Dieu. Bien sûr ça doit commencer par là, parce que nous on est aveugles, on a besoin d'avoir les yeux spirituels ouverts. C'est-à-dire que, je sais pas, parenthèse, prier, là je sais pas où je vais, c'est pas dans mes notes, je suis en train de partir sur autre chose là. Mais là, ce que Dieu fait c'est que la nourriture spirituelle ouvre nos yeux. C'est à ça que ça sert la parole de Dieu. Ça illumine les yeux de notre cœur, comme il est dit en Éphésiens. Mais une fois que ce processus s'opère, on a des décisions à prendre, on a des façons de penser qu'on doit changer. C'est-à-dire qu'on doit marcher par la foi. On doit rentrer dans ces choses-là. Si on n'y rentre pas, on a toute la connaissance qu'il faut, on a peut-être la bonne doctrine, la bonne église, le bon emploi du temps, on fait tout ce qu'il faut apparemment, mais le cœur n'est pas transformé. Le cœur n'est pas transformé. Vous savez, lorsque, en haut de la montagne, ce qu'on appelle la montagne de la Transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. On est d'accord. On peut se poser la question, si on regarde de façon un peu naturelle, simple, on se dit, bon, ben voilà, Jésus nous emmène là-haut, il monte, et là, à un moment donné, il est transformé. Il est glorifié, métamorpho en grec, hein, c'est-à-dire il est métamorphosé, changé. Et puis il y a Moïse et Élie en plus. Et là, il y a Pierre, souvent c'est lui qui parle, hein. Il dit, attends, c'est génial, hein. Alors attends, on va faire une tente hein, pour eux, là, on va les garder. Mais on pourrait poser la question à Pierre, mais pourquoi tu es dans cet état-là? De toute façon, tu es avec Jésus en 24 heures sur 24 en permanence. Qu'est-ce qui se passe pour que d'un seul coup, tu sois tout excité? Eh bien, c'est la transformation, c'est-à-dire la gloire de Jésus, ce à quoi on aspire. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais en fait, on aspire à Dieu, à quelque chose de transcendant. Pourtant, Jésus, je veux dire, il était sans péché, Jésus faisait des miracles, Jésus enseignait comme personne, Jésus était fidèle, Jésus aimait ses disciples. Bref, ils étaient avec la personne avec qui il fallait être. Ils étaient au bon endroit et au bon moment, eux. Il n'y a aucun souci, et ils se sont saisis de ça. On pourrait se dire, bah, tout va bien. Mais quand ils sont en haut de la montagne, il y a comme quelque chose de supérieur là qui leur est montré et que Pierre discerne, même s'il se trompe sur une chose ou deux. Mais en tout cas, il discerne ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce Jésus-là auquel on aspire. C'est cette éternité-là à laquelle on aspire. C'est cette transcendance-là à laquelle on aspire. C'est une paix qui surpasse toute connaissance et qui garde nos cœurs en paix. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le voir. Et rappelez-vous, en 1 Corinthiens, lorsqu'il dit, Paul, que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le verbe transformer, c'est métamorpho encore. C'est le même verbe. C'est-à-dire que le verbe qui est utilisé pour parler de la transformation de Jésus en haut de la montagne, c'est ce même verbe qui est utilisé pour parler de la transformation intérieure. Un chrétien qui n'est pas transformé est un chrétien frustré. Il n'y a pas, on pouvait tourner dans tous les sens. Et la souffrance, elle vient de là, principalement. Bien sûr, il y a la souffrance physique. Ça n'a rien à voir. Alors, encore une fois, on a hérité du péché, donc la souffrance est liée à la désobéissance de notre ancêtre. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je suis malade, c'est que de toute façon, c'est un processus qui doit arriver. Mais comment je réagis à la souffrance? Est-ce que, à cette souffrance-là, qui est là, qui ne partira peut-être pas, mais il y a une souffrance supérieure, c'est comment Non, j'aime pas le mot gérer parce que ça sous-entend qu'on est en contrôle. On n'est pas en contrôle en réalité. C'est que comment je vais vivre cette situation avec Dieu ? Est-ce que je vais être transformé, renouvelé dans mes pensées pour vivre une situation comme celle-là, qui est douloureuse ? Mais au moins je n'aurai pas cette souffrance intérieure qui peut engendrer, d'ailleurs c'est mystérieux, quand il y a des gens qui sont malades, ils se sentent coupables, parfois. Et je peux comprendre, parce qu'on sait que c'est une malédiction. On a peur que c'est peut-être le résultat d'une mauvaise décision. À minima, c'est de toute façon le résultat d'une mauvaise décision en Éden. D'accord ? Donc déjà, vous avez une réponse là. Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il ne faut pas regarder à la chute, il faut regarder à la rédemption. Il faut regarder à ce que Jésus a fait, à l'espérance qui est la nôtre. C'est un jour, nous serons comme lui. Un jour, nous serons transformés totalement. Mais il se trouve que pour l'instant, notre corps n'est pas transformé. Les problèmes dans ma vie ne changent pas. En revanche, mes pensées peuvent être transformées. Et lorsque mes pensées sont transformées, je ne vis pas les difficultés de la vie de la même manière. Je n'ai pas cette souffrance qui me pèse en disant « mais je suis coincé là ». Je regardais à midi les informations avec la catastrophe qui s'est passée dans le sud-est de la France. Et je pensais à ces personnes, alors ça arrive tous les jours, hein, mais là ça nous marque plus parce que c'est plus impressionnant, mais ça arrive tous les jours. Je veux dire, dans le monde entier, il y a des catastrophes naturelles en permanence, il y a des gens qui perdent tout, tous les jours. Mais là, vous avez des gens qui non seulement ont tout perdu, puis en plus, ils regardent. Moi, je voyais la place d'un village, là. Vous avez un mètre à peu près de boue, les voitures encastrées dans la boue. Vous vous dites, mais attends, on commence par quoi ? Pas de route pour sortir, pas d'électricité, pas d'eau potable, presque pas de réseau. C'est une souffrance. Mais je me disais, mais dans leur âme, il doit y avoir un stress terrible. Nous, alors, je ne sais pas comment je réagirais, moi, dans la même situation, mais j'ose espérer que la vie de Dieu me permettrait de penser autrement, d'être transformé, en disant, Seigneur, là je souffre, hein, là je perds tout, là je ne sais pas où on va, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais tu es mon ami. Et je continue de te louer, je continue de t'adorer, je continue de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te reste fidèle, je veux rester fidèle à ta parole. Seigneur, si tu l'as permis, c'est que c'est bon pour moi. Ça, c'est l'humilité. C'est d'être là et de dire, Seigneur, je ne mérite rien, je ne mérite rien, je ne mérite rien, mais tu me donnes tout. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Tu me donnes tout. Et je te remercie, Seigneur. Tu me mets à nu, mais j'ai tout. Parce que tu es mon tout. Tu es mon Dieu. Tu es mon Créateur. Tu es mon Sauveur. Tu es celui qui me prépare une place au ciel. Tu es celui qui m'a régénéré. Tu es celui qui a payé pour mes péchés. Tu me donnes tout. Et le reste, c'est en plus. Vous ne pouvez pas penser comme ça de façon naturelle. Vous ne pouvez pas penser comme ça de façon naturelle. Ce qui fait que vous êtes obligé d'être devant Dieu en disant, Seigneur, aide-moi à penser comme ça. Transforme-moi, métamorphose-moi. Le mot métamorpho, d'ailleurs, était utilisé par les Grecs pour parler, vous savez, de la transformation qui se passe entre la chenille et un papillon. C'est un processus de métamorphose. C'est-à-dire que l'animal est le même, mais pourtant, dans un premier temps, vous voyez une chenille, et c'est une chenille, hein, je veux dire, elle est là, elle est par terre, avec plein de pattes. Et puis, le lendemain, vous la regardez, vous dites, c'est un papillon, qui marche plus par terre, qui vole. C'est quand même incroyable. Ouais, mais il y a plus grand encore. C'est que moi, il y a Michel dans la chair, en Adam, et par la régénération et la puissance de la parole, il y a un être parfait en Christ, avec un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle espérance, des nouvelles pensées. Je suis le même, et pourtant, quand je suis dans la chair, vous allez dire, bah, c'est lui, et quand je suis dans l'esprit, vous dites, waouh, c'est lui. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il y a des conversions, des fois assez pas brutales, mais qui sont assez fortes, hein, où les gens passent d'une vie à une autre, l'entourage ne comprend pas. Je dis, mais je ne le reconnais plus. J'espère. J'espère que tu ne me reconnais plus. En fait, la vie chrétienne consiste à plus se reconnaître en Adam. C'est ça l'objectif. Dieu veut nous sanctifier pour plus qu'on se reconnaisse en Adam et qu'on puisse découvrir Christ en nous, espoir de gloire. C'est ça l'objectif. Alors, in fine, on va voir un corps glorifié, etc. Mais en attendant, Dieu veut voir cette transformation. Alors, je vais revenir à mes notes. Là, c'était une parenthèse. Je pourrais presque m'arrêter là. Mais juste que vous réalisiez que quand on écoute un message, quand on lit sa Bible, quand on médite, quand on écoute un témoignage, on prend des informations, on a besoin de ça. Ça commence par des informations. Si on n'a pas l'information, on n'a pas de vision. Mais une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait ? Dire, Seigneur, là je te la mets, parce que ça, ça ne marchera pas avec moi. Hein. Tu me connais, hein. Ça c'est trop dur. Hein. Ouh là là. Marcher par la foi dans ce domaine-là, niette. Agir de telle manière avec cette personne-là, niette. Agir avec de cette façon-là vis-à-vis de moi-même, niette. J'ai toujours été comme ça, je changerai jamais, niette. Mais toi, tu es puissant. Et je crois que tu peux faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ouvre un espace, je te laisse de la place. C'est pas d'essayer de d'œuvrer par nous-mêmes, sinon c'est de l'hypocrisie, ça. Ça marche pas, c'est de la religiosité. C'est de dire, Seigneur, c'est impossible. Alors, un autre exemple. Je vais pas en parler parce que j'ai souvent cité cet exemple-là dans ma vie, mais je vais généraliser un peu. Des fois, on se retrouve dans des situations où on est coincé, on sait que c'est pas dans le plan de Dieu, là. Ça va pas. Ça nous empêche d'avancer. Il y a une situation, soit un boulot, un emploi du temps. Mais on dit, oui, mais Seigneur, regarde, je peux pas faire autrement. Ça, c'est l'homme naturel. Voilà, Seigneur, je me justifie. Voilà, je peux pas faire autrement. Et donc, je continue. Ou alors, c'est de se dire, Seigneur, moi, je peux rien faire, mais je sais que c'est pas bon. S'il te plaît, fais quelque chose. Je m'attends à toi et j'accepte les ouvertures que tu vas opérer dans ma vie. Des situations, peut-être. C'est-à-dire, des fois, Dieu ne fait rien parce qu'on ne veut pas. On ne lui demande pas. On ne le croit pas capable. Je veux dire, alors après, encore une fois, ça va dépendre de votre appel, de votre situation, etc. Mais moi, dans la un des exemples que je vais quand même être obligé de vous donner, c'est que quand je suis rentré à l'institut, alors j'avais pas de famille à charge et tout, donc j'étais libre, on dirait, donc j'étais célibataire, ça, mes décisions n'engageaient que moi. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'appelles à l'institut, je sais que tu m'appelles à être formé, je sais que tu as un appel sur ma vie, je le sais, mais j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un travail. Donc ça, tu le sais aussi. Donc, Seigneur, trouve-moi un boulot où je finis à 18 heures. Et je te le dis noir sur blanc, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit comme ça quand même, dans l'esprit. C'était, je n'accepterai pas un travail après 18 heures. Encore une fois, moi je pouvais avoir cette exigence-là, d'abord parce que j'avais la certitude de l'appel, je croyais dans la capacité à Dieu de me fournir un travail de cette manière-là. J'ai aucun diplôme, hein. Bon, le seul diplôme que j'avais, c'était le brevet des collèges. Donc j'avais rien. De l'expérience au travail, ça faisait 10 ans que je travaillais, mais pour le reste, j'avais rien. Et je disais, Seigneur, voilà, c'est 18 heures, et sinon je prends pas. Ben, je peux vous garantir, je suis resté 2 ans au dortoir, j'étais au chômage par moment, mais j'ai travaillé, alors je sais plus maintenant le nombre de mois où j'ai travaillé, mais le deux boulots que j'ai eu, c'est la NPE qui m'a appelé, pour me dire, on vous demande, là, une entreprise, ils cherchent tel poste, allez à ce rendez-vous, j'y allais et j'étais pris. Hein, je veux dire, et dans mon entourage, quand je demandais aux gens, vous avez trouvé, vous, du travail par la NPE, c'était quand même assez rare. D'accord? Donc, j'ai vu la fidélité de Dieu. Et un des patrons que j'avais, c'était un magasin qui finissait à 19h, je lui ai dit, non, moi, à 18h, j'arrête. Et je lui ai expliqué pourquoi. Vous voyez, je fais des études de théologie. Donc, à 19h, je dois être là-bas, au Thalès, dans cette cité-là, et donc, à 18h, il faut que je parte et que je mange entre 18 et 19h. Et lui, j'habitais donc à Nîmes, le travail c'était à Nîmes, et lui, il habitait à Salon de Provence, je crois, Aix-en-Provence, je crois. Et c'était un lève-tard, il avait du mal à se réveiller le matin. Et donc il m'a dit, si vous ouvrez le magasin et que vous n'êtes jamais en retard, je vous donne les clés, c'est vous qui ouvrez le magasin et moi je fermerai. Voilà. Lui-même, il n'y avait pas pensé. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a vu une opportunité en disant, je lui laisse le soir, mais par contre, il faut que le matin, il se lève. Et s'il joue le jeu, ça m'arrange. Donc chacun y a trouvé son compte, si vous voulez. Donc tout ça pour dire, et sur le papier, j'aurais pas pu imaginer ça. Tu sais, t'es là, t'as pas un diplôme, tu cherches du travail, et puis le gars, il te prend, et vous avez fait quoi? Oui, c'est l'expérience. Oui, alors là, moi, je vends ça. Oui, vous pouvez penser, c'était les courants faibles, ça s'appelait. Je vendais des antennes télé, des répartiteurs électriques, voilà. Et puis je dis, oui, mais si, par contre, 19h, non. Ah bon, pourquoi? Et voilà. Voilà. Mais après, il y a les nœuds de l'âme aussi, des impossibilités dans notre âme. Mais Dieu est puissant, il peut faire plein de choses, il peut nous guérir. Il peut guérir de la lèpre, mais il peut guérir aussi de la lèpre des pensées. Simplement, donner l'occasion à Dieu, un espace, un peu comme nous, vous savez, on est un peu serré peut-être dans notre salle à manger, mais on invite quelqu'un, on va faire de la place. On laisse rentrer la personne, on lui fait de la place, on va se serrer un peu. Des fois, il faut serrer un peu nos mauvaises pensées, les chasser et laisser les pensées de Dieu venir. Tout est possible pour celui qui croit. Et souvent, on souffre parce qu'on ne vit pas cette vie-là. On a besoin de vivre une vie où Dieu bouge, où Dieu agit. C'est comme être marié avec quelqu'un et vous ne voyez jamais la personne. Moi, ça, c'est quelque chose, dans notre culture, on a du mal à comprendre ça. Il y a dans d'autres cultures, il y a des gens qui ne se voient pas pendant des années, mais nous, on a du mal à vivre ça. Mais je veux dire, dans la relation avec Dieu, c'est impossible, c'est pas un problème culturel, là. Ça n'a pas de sens. C'est qu'il faut que Dieu soit là dans notre vie, il se passe des choses. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et se dire, Seigneur, moi je suis incapable, mais toi tu es capable, montre-moi. Et alors, par la parole, par le ministère du Saint-Esprit, Dieu met des petits bouts de pain de vie, là, en disant, ramasse, avance dans cette direction, un pas après l'autre, d'accord? Et puis on avance, et il y a un processus de transformation qui n'est pas lié simplement à une connaissance de la vérité, donc c'est la vérité, c'est bien, il faut la connaître, mais... J'ai beau savoir qu'un mets, un aliment, un plat est bon, si je le sais intellectuellement que j'en mange pas, non seulement je vais pas avoir un plaisir particulier, mais surtout c'est que mon corps ne sera pas nourri. Et donc j'ai besoin d'avancer là, de me nourrir, de faire la volonté du Père. Et si des fois on n'y arrive pas, on se met à genoux et on dit « Seigneur, je sais quand même que c'est ça la vérité, et Seigneur, voilà, agis. » Bref, être comme un Jacob, qui revient de 20 ans en dehors de la terre promise, et quand il revient dans la terre promise, il se bat en disant « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Et là, il se peut que le Seigneur amène un brisement et qu'on boite. Mais on est sur la terre promise. On est sous la bénédiction. Et Dieu, il approuve ça. Tu t'es battu et tu as gagné, tu as vaincu. Il a vaincu quoi? Il boite. L'ange, lui, ne boite pas en repartant, l'ange de l'Éternel. Mais pourquoi il a vaincu? Parce qu'en fait, il a compris qu'il fallait autre chose que simplement des biens matériels. Il fallait autre chose que simplement être le chef de famille. Ce qu'il fallait, c'était Dieu lui-même. « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Tout comme 20 ans avant, et c'est là où Jacob est quelqu'un de qui a la foi, qui sait où est la vie. Le problème, c'est que il y a sa chair qui a besoin d'être un petit peu élaguée. Donc Dieu va mettre 20 ans pour élaguer sa chair. Mais il y a 20 ans auparavant, Dieu était là et je ne le savais pas. Je dormais. Ça l'a énervé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un holocauste. Avec cette pierre sur laquelle il s'était endormi, il a mis de l'huile, il a béni, il a fait une louange à Dieu. Il a proclamé une louange. Et pendant 20 ans, je peux imaginer, et on sait ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, Dieu a travaillé dans sa vie, je peux vous garantir, et Dieu a amené des souffrances dans sa vie. Mais dans son esprit, il s'est passé quelque chose qui l'a amené à avoir un nouveau nom, à s'appeler Israël. Et c'était ça dont Jacob avait besoin. C'était une nouvelle vie, pas l'ancienne. Pourtant, avec l'ancienne, il manipulait son monde. Il obtenait ce qu'il voulait. Bon, il y avait des conséquences, il était obligé de fuir aussi. Mais voilà, il arrivait à se débrouiller. Mais, et alors ? Et alors ? Je sais ce que c'est que le droit d'aînesse. Oui, mais est-ce que tu sais que Dieu aurait pu te le donner par grâce ? Est-ce que tu sais ça ? Ça, il ne le savait pas. Donc, il a essayé d'obtenir par les moyens de la chair. Il a utilisé l'énergie de Jacob. Mais Dieu a fait dans sa vie un travail qui fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé en face de l'ange de l'Éternel en disant « Là, je ne le lâcherai pas, là. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Eh bien, nous, ça va peut-être durer plus d'une nuit. Peut-être que pendant des jours, on va venir vers Dieu en disant « Voilà, voilà, Seigneur, voilà ce que... Voilà. » Et pas simplement « Je veux une nouvelle télé » ou « Je veux une nouvelle voiture. » Non, non, je veux quelque chose dans mon âme, là, et je veux quelque chose qui chante. Je veux vivre quelque chose avec toi. Je te tiens là, je t'enlace, t'es là, t'es mon Dieu, t'es mon Sauveur, t'es à moi, comme moi je suis à toi. Tout comme la femme, elle est soumise à l'homme, Ève, à Adam. Nous, l'Église et les membres de l'Église, on est soumis à Christ et on dit, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et maintenant que je le sais, aide-moi, parce que je suis pécheur. Et je sais que, même si je suis pécheur, je sais que tu m'en veux pas, tu as tout payé. Je sais que tu m'aimes, même si je suis pécheur. Donc voilà, je te demande humblement, voilà Seigneur. Avoir cette forme d'exigence, qui n'est pas un droit, ou c'est quelque chose un peu de hautain, en disant Seigneur quand même, je t'ai accepté comme sauveur quand même, tu dois être content, donc maintenant donne-moi ça. Non, c'est pas ça. C'est dire Seigneur, tu m'as pas sauvé simplement là pour qu'on erre comme des brebis. Tu m'as sauvé pour qu'on soit dans un troupeau, que tu sois notre bon berger, qu'il y ait de l'herbe en abondance, qu'on ait une vision, que l'on soit transformé. Donc juste, remettons ça à Dieu. Ce message là que j'ai devant moi, je ne sais pas si je le prêcherai un jour, c'est pas grave. J'avais vraiment là, c'est venu comme ça, comme intro. D'une intro, c'est devenu le message, mais juste qu'on réalise quoi. On a des belles choses à vivre. Confiné, et alors, on est confiné. Dieu est grand. Dieu est grand. Je ne suis pas limité par les murs de mon appartement. C'est une souffrance, peut-être. Oui, si je suis malade, ce sera une souffrance. Oui, je vais peut-être avoir peur de partir, mais je vais le vivre avec Dieu. Parce que je ne suis pas seul. Vous imaginez, il y a des gens qui meurent et qui partent là et disent « Mais où je vais ?» Il y a les miens qui sont là. Il y a mon compte en banque qui est là, j'ai travaillé pour cet argent et moi je suis en train de partir. Il y a mon appartement, j'ai bricolé pendant des années ma maison, j'ai bossé pour une entreprise pendant des années. Et là je suis en train de partir, je suis seul, j'emmène rien, je suis seul. Où je vais me retrouver ? Et nous on peut dire, Dieu t'es avec moi là, je suis pas seul. Il y a des anges qui vont me porter et qui vont m'amener jusque dans ta présence. Waouh ! Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est que même aux portes de l'enfer, Dieu est là. Psaume 23. Psaume 23. Est-ce que l'Éternel est notre berger ? Ouais. Est-ce qu'on manquera de rien ?